Actualité du Concile de Nicée, c'est le titre d'un article paru dans la revue diocésaine Notre Église du mois de mars 2025. L'actualité du Concile de Nicée, écoutons l'abbé Philippe Beitia.
Le Concile de Nicée, aujourd'hui Isnik en Turquie, est le premier concile œcuménique de l'Église indivise. 199 évêques se sont réunis il y a 1700 ans, du 20 mai au 20 juillet 325, sur la convocation de Constantin dans le palais de cet empereur. Ce qui va provoquer la tenue de cette assemblée, c'est l'enseignement d'Arius, un prêtre d'Alexandrie en Égypte, sur la filiation divine de Jésus. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit qu'il présente Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu envoyé par le Père pour le salut des hommes, qui entre dans l'histoire humaine en la personne du Christ Jésus. La question que va se poser Arius, c'est de savoir ce que veut dire Fils de Dieu. La personne du Fils, qui s'est incarné en Jésus, existe-t-elle depuis toujours? Est-elle éternelle? Arius admet que par rapport aux hommes, le Fils a un aspect divin, qu'il dépasse les hommes, mais il ne conçoit pas qu'il soit Dieu au sens fort, qu'il soit sur le même plan que le Père. D'autant plus que dans la culture grecque, qui est celle d'Arius, on a un sens aigu que Dieu est unique. Pour certaines philosophies d'alors, il existe un intermédiaire entre Dieu et le monde qu'on appelle le Logos, antérieur au monde matériel, mais non éternel, inférieur au Dieu unique, auquel Dieu confie la création. Le Logos a un commencement. Il est engendré par le Dieu unique. C'est ce schéma qu'Arius applique. Le Dieu unique, c'est le Père, le Fils et le Logos. Il est produit par le Père, inférieur au Père, et ne partage pas au même degré que lui la divinité. Par ailleurs, dans la culture grecque, Dieu n'est pas sujet au changement et à la souffrance. Or, il y a les humiliations et les souffrances de l'existence de Jésus. Et cela ne peut aller avec une conception d'un Dieu immuable, impassible. Bref, pour Arius, Jésus n'est pas pleinement et réellement Dieu. C'est contre l'enseignement d'Arius que le Concile de Nicée va réagir. Pour faire comprendre ce qu'est la génération du Fils, il va partir de l'expérience de la génération humaine. De même qu'un homme engendre un homme, un être qui est aussi homme que lui, qui lui est consubstantiel, de la même substance, de même Dieu, le Père, engendre Dieu, le Fils, qui est, pour reprendre les termes grecs du Concile, homoousios to patri, c'est-à-dire consubstantiel au Père. Mais, lorsqu'on compare la génération des hommes à celle du Fils, on prend l'image d'une réalité du monde des hommes qui rend compte de quelque chose qui la dépasse. Dans la génération du Fils, il n'y a pas de temps. Elle est spirituelle. Dieu le Père engendre éternellement un Fils, mais ne lui est pas antérieur. Et ce Fils a une pleine égalité d'être avec le Père. Il est de même nature et égal au Père, et de ce fait ne peut être cette espèce de créature présentée par Arius, qui est le Logos. C'est ce que le Concile de Nicée intégrera dans le credo que nous chantons à la messe. Crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles, et Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et ceci n'est pas sans conséquence. En effet, si le Christ n'est pas médiateur entre Dieu et les hommes, totus in suis, totus in nostris, pour reprendre une formule du pape Saint Léon le Grand, c'est-à-dire tout à fait du côté de Dieu, tout à fait du côté des hommes, s'il n'est pas le vrai Fils de Dieu, s'il n'est pas vrai Dieu, Il ne peut pas nous faire connaître authentiquement Dieu. Il ne peut pas faire de nous des enfants de Dieu. Il ne peut pas nous donner la vie divine. L'enseignement du Concile de Nicée nous tourne vers le mystère de la Sainte Trinité, où Dieu le Père engendre éternellement un Fils, à qui il donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Le Fils vit dans un mouvement de don au Père, recevant tout pour le rendre à nouveau. L'Esprit Saint surgit de ce don mutuel. Mystère dont nous ne pouvons avoir une connaissance vitale et joyeuse que dans la prière. Enfin, en intégrant dans le credo tissé de textes bibliques les termes grecs que nous traduisons par consubstantiel au Père, nous avons là l'invitation à l'inculturation, à la traduction du message de la foi dans des catégories de pensée et dans le langage d'une culture différente. Le pape Alexandre VII n'écrivait-il pas en 1659 à des missionnaires ceci : ne faites aucune tentative ni ne cherchez aucunement à persuader ces peuples de changer leurs coutumes, leur façon de vivre, leurs usages, quand ils ne sont pas manifestement contraires à la religion et à la morale. Il n'y a rien de plus absurde que de vouloir apporter en Chine, la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou quelque autre partie de l'Europe. N'apportez rien de tout cela, mais la foi. Et plus près de nous, Jean-Paul II, dans Slavorum Apostoli, qualifie ainsi le concept d'inculturation, incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones et en même temps, introduction de ces cultures dans la vie de l'Église.
L'actualité du Concile de Nicée, vous venez d'entendre l'abbé Philippe Beitia qui nous proposait un article paru dans la revue diocésaine Notre Église du mois de mars 2025.
Consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
Credo, credo, in unum Deo, credo, credo, in unum Deo.
Pour nous les hommes et pour notre salut, descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.
Credo, credo, in unum Deo, credo. et apostolique.